Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue dans Ça roule, l'émission vélo qui pédale dans la semoule. Je sens qu'on va passer une très bonne émission aujourd'hui, messieurs. Eh oui, on va parler bicyclette et pendant trois quarts d'heure. Alors, au programme aujourd'hui, on va revenir sur le Tour de Flandre avec la victoire de Mathieu Van Der Poel. Il va passer au traditionnel conseil de classe. Puis ensuite, on s'attaquera sur un débrief assez rapide du Tour du Pays Basque. Et enfin, en dessert, la preview de Paris-Roubaix avec nos deux chroniqueurs favoris, les indéboulonnables. Ils n'ont pas beaucoup d'expertise. Ils regardent les courses à partir de la flamme rouge, mais pourtant, ils ont toujours un avis à donner. Nicolas Delic et Pierre Marchand, comment ça va, Nico?
Ça va super bien. Je te confirme, on pédale bien dans la semoule parce qu'on a mis 45 minutes à se connecter. Donc voilà, ouais, quoi. C'est.
Faut pas dire, c'est
un
les coulisses.
Image, un autre image, c'est les coulisses, c'est les coulisses.
Et comment il va, Pierre Marchand, la personne à cause de laquelle on n'arrive pas à se connecter?
Mais je confirme les dires de Nicolas et donc impatient de débuter.
Écoutez, on attaque tout de suite. J'espère que vous avez un petit peu regardé de vélo tout de même, messieurs. Il y avait quelques courses, Tour des Flandres, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On attaque tout de suite avec Top Jingle, le conseil de classe.
Vous n'allez tout de même pas lui refuser les félicitations.
C'est une classe de débiles.
Nous mettrons quand même niveau B avec les encouragements.
Eh bien, vous n'êtes pas difficile.
Messieurs, dimanche avait lieu le second monument de l'année, le Tour des Flandres, le Ronde, qui a vu le grandissime favori Mathieu Van Der Poel l'emporter. Il aura suffi d'une seule attaque dans le Koppenberg à 44 km de l'arrivée pour que le champion du monde se fasse la malle et s'envole pour son troisième succès en seulement 5 éditions. Il rejoint ainsi les recordman de victoire Achiel Buiz, Fiorenzo Manni, Eric Lehmann, Museu Bounen et Cancellara. Messieurs, vous avez j'imagine regardé la course. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On commence avec Pierrot.
Qu'est-ce que j'en ai pensé? Une course avec un grand favori et ce grand favori a gagné avec un suspense finalement assez limité, mais ça reste une course intéressante à regarder, au moins pour la composition du podium. Voilà, si je devais résumer de façon très rapide.
Ok, c'était très, très succinct. Nico, toi, qu'est-ce que tu en as pensé qu'il l'a regardé à partir du kilomètre zéro? On sait que t'es un assidu.
Ouais, j'ai même regardé l'échauffement des coureurs. Non, mais ce que j'en ai pensé, c'est une masterclass de Mathieu Van Der Poel à laquelle on a assisté. Moi, ce qui m'a marqué, c'est deux choses. Je dirais la différence de niveau qu'il y a et qui, je pense, se creuse encore au fil des courses entre Van Der Poel et les autres. C'est vraiment ce qui m'a frappé. Il était un cran, deux crans, trois crans au-dessus des autres. Et je ne m'attendais pas à un tel écart. Je m'attendais à ce qu'il gagne, on l'avait vu dans les pronos, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Et après, c'est l'image, mais je pense qu'on va peut-être en reparler après, l'image du Koppenberg qui était dingue, je trouvais, là où tout bascule, où Van Der Poel part et les autres sont scotchés sur la route et posent pied à terre. Donc c'est ce que j'en retiens de ce round.
Justement, tu me fais une transition parfaite sur ce Koppenberg. Il y en a trois qui sont passés. Van Der Poel premier, deuxième Jorgensen, on connaît la suite, et troisième Pedersen. Les autres ont posé pied à terre. Il y a une petite polémique là-dessus. Est-ce que vous l'avez comprise, la polémique sur le Koppenberg, le fait que ça ressemblait peut-être plus à du cyclocross qu'à du vélo, Nico?
Non, pas du tout. Ouais, j'ai vu les débats qu'il y avait, que ça a suscité. Je n'ai pas du tout compris. Pourquoi il y a eu cette polémique? Ça fait pour moi partie intégrante du Tour des Flandres. Et au contraire, je vous envoie aussitôt l'image. Elle était dingo dans le Koppenberg. C'est là où Van Der Poel a fait la différence. Et je trouve ça bien qu'il peut y avoir ce genre d'obstacle à passer. Alors, faut pas qu'il y en ait 10 000, mais il y en a un à 40 km de l'arrivée. Et je trouve que ça, il a toute sa place dans le Tour des Flandres. Et au contraire, il doit rester dans le Tour des Flandres.
Et toi, Pierrot?
Moi, pour être tout à fait honnête vis-à-vis des auditeurs, j'ai pas forcément suivi de très près l'après-course, donc j'ignorais cette polémique. Mais non, je pense que c'est. Je sais pas si elle vient d'un coureur, mais je pense qu'elle vient plutôt de sueur. En tout cas, je pense qu'elle fait. Ça fait partie de la course et il fallait être placé au pied. Je pense que les trois premiers placés au pied sont passés et pas les autres. Donc, tant pis pour eux.
Ouais, on a pu. Ah, vas-y, continue, Nico.
Ouais, je pense qu'il y a un élément, c'est que bon, effectivement, Van Der Poel attaque dans cette partie. Il y a Jorgensen, Pedersen qui suivent. Derrière, il y a les premiers qui déchaussent. Et je pense que comme ils déchaussent et que la, la route est quand même étroite. En fait, naturellement, je pense que derrière, il y en a aussi qui déchaussent parce que la course s'arrête devant, quoi. Donc c'est pour ça que derrière, ça s'enchaîne et tout le monde finit par déchausser.
Ouais, et puis même
Oui.
gars. Vas-y, Pierre, on continue.
Non, alors j'ai pas compris la polémique, mais c'est parce qu'il y en a qui ont déchaussé, donc derrière, bah forcément, tu tiens plus en équilibre, donc tu es obligé de déchausser. Enfin, je pense s'ils étaient passés en file indienne avec 3 secondes d'écart chacun, tout le monde passait en haut. Enfin, j'avais pas compris la polémique dans ce cas-là.
Non, effectivement, non, le fait qu'il y ait eu beaucoup de gens à l'arrêt, mais bon, on a pu voir plusieurs images qui ont ressurgi. On a vu même que Eddy Merckx, le grand Eddy, est passé à pied sur l'une des éditions du Tour des Flandres, comme quoi. En tout cas, cette montée à 22% fait du mal et elle a décidé du sort de la course. Est-ce que vous avez été surpris justement par ce scénario de course et l'attaque de Van der Poel à cette lors du Koppenberg? Il n'a pas attendu, il aurait pu attaquer plus tard, il aurait pu attaquer plus tôt. Qu'est-ce que vous avez pensé du scénario global de la course, Nico?
Moi, je m'attendais à ce qu'il attaque dans ces environs-là, peut-être pas forcément au Koppenberg précisément, mais je m'attendais à ce qu'il attaque à 40-50 km de l'arrivée. Donc ça, sur le scénario, j'ai pas
Si
été
le
surpris.
Copenberg, je te coupe 44 km de l'arrivée. Donc on est.
44 km de l'arrivée. Je m'attendais à ce qu'il attaque à ce niveau-là. Par contre, là où ça m'a surpris, c'est que bah, au final, il soit tout seul et qu'il termine tout seul. Moi, dans ce que j'avais en tête. Je me suis dit que Van der Poel effectivement allait attaquer, mais derrière il y en allait avoir deux, trois qui allaient être en capacité de le suivre et qu'ils allaient pendant plusieurs kilomètres derrière faire jeu égal et qu'on allait avoir de nouvelles attaques à 30 ou 20, 10 bornes de l'arrivée. Je ne pensais pas que Van der Poel, dès le Koppenberg, allait faire la différence. Donc ça m'a, en termes de scénario, je ne m'y attendais pas et non, surtout là où je ne m'attendais pas au scénario et là où Alpecin a été. A été tactiquement irréprochable, c'est l'attaque de Pedersen à plus de 100 km de l'arrivée. En fait, moi, je m'attends, à la limite, ça aurait pu être d'autres un peu, je dirais, second couteau ou gars un petit peu moins fort qui attaque et qui force derrière Van der Poel et Alpecin à aller rouler. Mais là, quand Pedersen attaque à 100 km, je comprends pas trop ce qu'il fait. Alpecin, il manœuvre super bien parce qu'ils mettent Van de Merch derrière lui, il le force un petit peu à rouler. Donc Petersen, il roule pendant 15-20 km tout seul dans le vent. Donc derrière, c'est du tableau noir pour Van der Poel. Il reste dans le peloton au chaud, il donne aucun coup de pédale. Donc c'est plutôt cette attitude là qui m'a surpris. Même de Jorgensen au final, qui a attaqué à 105-110 km de l'arrivée une première fois. Donc je pense qu'ils ont laissé pas mal de jus et une chose qui est intéressante c'est que tu vois les deux ils suivent dans le Koppenberg mais après ils explosent littéralement, ils finissent très très loin en classement général, Jorgensen et Pedersen. Donc je pense qu'ils étaient cuits, cramés après leur offensive déjà entamée à plus de 100 bornes de l'arrivée.
Ouais, moi pour rebondir sur un des derniers points de Nico, je pense que pour gagner le Tour des Flandres, faut être très fort physiquement et comme tu as posé la question précédemment, il faut aussi techniquement être un minimum habile, surtout quand les pavés sont mouillés. Et là en plus, bah, tactiquement, et c'est pas forcément son point fort, Van der Poel a été au rendez-vous d'un point de vue collectif et aussi individuel. Je pense qu'il a couru. Il a couru très juste, donc bah, dans ce cas-là, c'est imparable et ça fait une belle victoire au bout, quoi.
Et ce qui est imparable, c'est que les coureurs vont passer devant le conseil de classe qui débute maintenant. On a vu la course dans son intégralité, dans sa généralité. Maintenant, on va s'attaquer au conseil de classe, aux coureurs, et on va commencer avec les félicitations. Alors, ça a été assez facile parce que vous m'avez donné le même coureur. J'ai été très surpris. Mathieu Van der Poel. Nico, tu commences. Tu vas devoir me. Petite subtilité pour les auditeurs. Tu vas devoir me défendre ta félicitation et ensuite on va voter pour savoir si on l'accepte ou pas. Nico, tu commences. Mathieu Van der
Allez,
Poel, aux félicitations.
c'est parti. Je propose de donner les félicitations à Mathieu Van der Poel avec ces trois stats que je vais vous livrer, messieurs. Ces trois stats, c'est 7, 6,
Ah,
5.
on n'en avait pas eu assez là.
7, c'est comme. Mais oui, j'adore les stats. 7, c'est parce que Mathieu Van der Poel est le septième coureur, tu l'as dit, à gagner pour la troisième fois le round. Tu l'as dit en ouverture avec les six autres coureurs. 6, car Mathieu Van der Poel, c'est le sixième coureur à remporter, c'est pas rien, le round avec le maillot irisé sur le dos. Après, excusez du peu, Bobet, Van Looy, Merckx, Boonen, et Peter Sagan. Et mon dernier chiffre, ma dernière stat, c'est 5, car Mathieu Van Der Poel est le premier coureur de l'histoire, tout simplement, à terminer sur le podium lors de 5 éditions d'affilée. Donc pour ces 3 stats-là, je propose de donner les félicitations à Mathieu Van Der Poel.
Et on va demander tout de suite à Pierre, à Pierrot, si est-ce que tu acceptes l'appréciation et les félicitations pour Mathieu Van Der Poel.
Alors moi, j'avais pensé à Mozzato, à Nassen et à Tuns, qui sont aussi présents dans le top 10. Et encore une fois, par rapport à mes attentes, je ne les voyais pas aussi haut. Mais effectivement, je dois avouer que les arguments de Nicolas m'ont pleinement convaincu, et notamment ses statistiques. Donc, j'accorde volontiers les félicitations à Mathieu Van Der Poel.
Très bien. Eh bien, écoutez, je n'ai même pas à voter dans ce cas-là, puisque vous êtes déjà 2 à être d'accord. On passe tout de suite, alors, dans ce cas-là, aux encouragements. Peut-être qu'il y aura un peu plus de débat. Je vais laisser commencer par Pierrot commencer, et tu vas nous dire qui doit recevoir les encouragements suite au Tour des Flandres.
Alors moi, je souhaite proposer le nom d'Antonio Morgado, qui fait un joli top 5 sur la course. Pourquoi ? Bah, ça fait partie des coureurs, je dirais, avec un fort potentiel, encore jeune, et pour lesquels je suis avec attention leur évolution. Très clairement, moi, j'ai pris connaissance de Morgado il y a cela à peine un an, là, quand il avait fait deuxième sur un sprint interminable au championnat du monde. Et je l'avais revu par hasard, alors que je ne pensais pas du tout que c'était ce profil de coureur sur le Samin où il fait deuxième. Et d'ailleurs, il expliquait que les pavés, ce n'était pas trop pour lui. Alors, qu'est-ce qui relève de la com et qu'est-ce qui relève vraiment de sa véritable appétence pour les courses du Nord? Toujours est-il que quand on regarde les courses sur lesquelles il s'est aligné depuis le début d'année, il a bouffé du pavé, il a bouffé du mauvais temps. Et mine de rien, il se débrouille pas mal. En tout cas, j'ai rarement vu un coureur portugais aussi à l'aise sur ce genre de parcours. Donc, très curieux de voir son évolution à la fois sur les courses du Nord, mais aussi plus globalement sur ce qui me semblait être des profils peut-être plus en adéquation avec son profil. Mais je trouve ça, de la part du AE, assez enrichissant. Il proposait aussi une forme de formation, en tout cas de faire ses preuves sur des terrains qui ne sont peut-être pas forcément ses terrains de prédilection, quoique il le verra peut-être dans les mois et années à venir, où est-ce qu'il performe le mieux.
Nico, les encouragements pour Antonio Morgado, le coureur de 20 ans de UAE.
Ouais, je partage cette mention. Moi, je pense que j'ai découvert ce coureur il y a encore moins longtemps que toi, Pierrot. Donc il a été très très surprenant. Même chose, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une telle perf sur le ronde. Donc oui, à fond pour les encouragements.
Ok, donc les encouragements de Monsieur Morgado sont donc validés et seront envoyés à ses parents. Nico, est-ce que tu as quelqu'un à proposer pour les encouragements?
Oui, car j'ai pas mis Morgado, mais j'ai mis un coéquipier de Morgado du AE. J'ai mis Nils Polit pour les encouragements. Donc je propose qu'on donne les encouragements à Nils Polit, car il réalise, je pense, sa meilleure campagne, je dirais, de classique de sa carrière. Cette année, j'aime bien les stats, hein, enfin les chiffres, donc je vous les donne. Il fait 2 du Het Nieuwsblad, 7 du GPE3. Il fait 12 de À travers la Flandre, et là il a terminé 3e dimanche. Donc bravo Nils Polit. Voilà, je trouve qu'il est, on va peut-être en reparler en fin d'émission, mais il ne cesse de progresser depuis le début de l'année, et je le vois bien faire un petit truc sur Paris-Roubaix. C'est un candidat sérieux, il avait fait quand même 2 de Roubaix et 5 du Tour des Flandres en 2019. Et ensuite, il a eu un petit creux, mais on le voyait un petit peu moins, ou du moins moins fort sur les autres années après 2019 sur les classiques. Et là, je trouve qu'il fait vraiment une campagne très solide. Donc, pour moi, ça mérite les encouragements. Et puis, sur ce round, il a été vraiment très fort. 3e, un beau podium après le déclassement de Matthews, mais ça mérite pour moi les encouragements.
Ouais, on va voir si Pierrot partage. Je vais quand même un petit peu t'attaquer derrière, parce que là, ça me paraît un peu gros, les encouragements pour Polit. Vas-y, Pierrot.
Je serais peut-être un peu plus tiraillé. Alors effectivement, il réalise une très belle campagne. Après, finalement, encore une fois, c'est par rapport aux attentes qu'on a pour ce coureur, y compris les attentes de l'équipe UAE par rapport au coureur. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas le profil de leader? Est-ce qu'au final, l'objectif, c'était quand même d'en gagner une sur ces classiques? Et il n'en a pas gagné. Donc, je ne sais pas si cet argument suffit à lui refuser les encouragements, mais on pouvait peut-être en attendre encore mieux de la part de Lynch Polite au vu de son statut au sein du UAE.
Alors moi, je vais quand même continuer sur la discussion pour Nils Polit. Nico, toi qui as regardé l'échauffement des coureurs jusqu'au bout, bon, Nils Polit, excuse-moi, il s'est caché toute la course. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas énormément vu à l'attaque dans le Tour des Flandres. Par contre, il y a des gars que j'ai vus qui s'appellent Alberto Bettiol et Dylan Teuns qui ont fait une excellente course et qui se font rattraper à 20 mètres de la ligne. Pour moi, ces gars-là méritent peut-être plus les encouragements qu'un Nils Polit. Morgado, je comprenais l'argument de Pierrot par sa jeunesse. Il a 20 ans, il y fait déjà un top 5 sur le Tour des Flandres. Incroyable, inattendu. Bon, Nils Polit, c'est un beau résultat. Est-ce que ça mérite pour autant les encouragements? Est-ce que tu as encore des arguments sous le coude ou t'es déjà à sec là, Nico?
Bien, je suis pas à sec parce que pour moi, le rond, là, c'était vraiment une course d'usure. Et on a vu que tous ceux qui, justement, ont voulu à un moment donné se montrer trop tôt se sont un peu derrière... cramer les ailes et on finit dans le dur. Et tu vois, si tu prends cet exemple de « il ne s'est pas montré », Mozzato, même chose, ne s'est pas montré. Au final, il finit dans le groupe final et il termine 2 en sprintant. Donc, Polite, c'est la même chose. Et je pense que sur ce round-là, qui était très particulier, sans doute avec le temps, la pluie, le froid, il fallait peut-être pas trop en montrer et pour pouvoir justement mieux terminer dans le final. Mieux s'exposer parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a Petersen, Jorgensen, mais il y en a d'autres qui se sont aussi montrés derrière, qui ont littéralement explosé dans les 20-30 bornes. Donc c'était une tactique à prendre. Alors certes, ça ne fait pas lever les spectateurs, mais derrière, ça fait podium.
Ouais, alors ça fait podium. Je continue. Ça fait podium suite au déclassement de Matthews, qui est pour moi un peu sévère. Donc.
Partage.
Donc bon, podium, bon, peut-être quatrième finalement. Est-ce que ça mérite les encouragements? En tout cas, c'est pas moi qui vais voter en premier, c'est Pierrot. Pierrot, tu vas nous dire si tu valides ou pas. Et ça, la décision finale, elle sera peut-être entre mes mains si tu es contre.
Ah, tu me mets dans une position délicate. Je t'ai trouvé plutôt convaincant sur l'attitude et je trouve que ça renforce ce que je disais. C'est peut-être que bon, il court. Quand même un petit peu trop caché par rapport à ce qu'il était censé pouvoir faire. Donc, je suis un peu tiraillé. J'ai le plaisir de la contradiction, donc j'aurais tendance à dire non. Après, ça reste quand même une belle campagne pour lui. Donc, envoyer un encouragement à Nils Polit, je pense que ça peut se justifier. Donc, je plaide plutôt en faveur d'un oui.
Eh bien, ça sera les encouragements validés. Pareil, je les enverrai
merci
à ses
messieurs.
Parents.
Merci, messieurs.
Il n'y a pas de problème. Donc, Morgado et Nils Polit, encouragement validé pour ce conseil de classe, ce conseil de course du Tour des Flandres. Et on va terminer par ce qui fait mal. Ça fait toujours mal de recevoir un avertissement. On essaye de cacher le bulletin pour pas que les parents le reçoivent, mais il faut quand même les donner. Alors, on va commencer par Nico. À qui tu as envie de donner un avertissement sur cette course
Un avertissement, une formation à la Soudal Quick-Step.
À la Soudal Quick-Step, et pourquoi?
Alors, pour une raison. Bon, je n'attendais pas forcément de la Soudal Quick-Step qui joue les premiers rôles sur le rond. Je ne m'attendais pas à une victoire, mais je m'attendais quand même à ce qu'on les voit un petit peu plus et à ce qu'ils pèsent un petit peu plus sur la course. Et donc, messieurs, je vais vous livrer un petit exercice que j'ai fait. J'ai pris les 10 dernières années et je vais vous donner la position du meilleur coureur de Quick-Step sur le Tour des Flandres sur les 10 dernières années. Ce qui veut donc dire que je n'intègre même pas Tom Boonen, qui l'a gagné 3 fois. Et vous allez voir où je veux en venir. 2014, meilleure position, 4e, Vandenberg. 2015, 2e, Tepstra. 2016, 8e, Stibar. 2017, 1er, vous en souvenez, Gilbert. 2018, Rebelote, 1er avec Tepstra. 2019, 2e, Asgreen. 2020, 5e, Lampard. 2021, un nouveau 1er avec Asgreen. 2022, petit couac, 23e, Asgreen. Mais il termine en vrai à 1 minute, il ne termine pas très loin non plus du top 10. 2023, c'est à nouveau Asgreen, 7e. Et cette année, messieurs, c'est là où je veux en venir. 2024, le premier Soudal, c'est Lampard qui finit à plus de 2 minutes, 18e. Et derrière, il faut chercher Asgreen et Merlier, 47e et 65e à plus de 7 minutes. Donc, là où, pour moi, je mets les avertissements, c'est que j'en attendais certes peut-être pas grand-chose, mais j'attendais qu'ils pèsent un petit peu plus sur la course. Là, ils sont complètement transparents. Et en fait, je pense qu'ils ont deux choses. C'est qu'ils ont besoin de... Enfin, ils ont forcément besoin de faire mieux quand même, parce qu'historiquement, c'est la meilleure équipe sur le Tour des Flandres et les Flandriennes. Et ils ont besoin aussi de se renouveler, parce que là, c'est Asgreen qui porte l'équipe depuis 3, 4, 5 ans même maintenant, avec Lampard, c'est toujours les mêmes. Et je pense qu'ils ont un besoin de renouvellement de coureurs sur les classiques, parce qu'avec ces
nouveaux coureurs, on a compris, voilà. Nico. Donc, si je résume, c'est la phrase de Doui dans Malcolm. Je ne m'attendais à rien, j'ai été déçu quand même. Pierrot, sur la Soudal Quick-Step, pour toi, tu abondes ou tu n'es pas forcément d'accord?
Très beau résumé, Pedro. Oui, globalement, j'abonde. En fait, moi, ce qui me déçoit le plus, même si je n'avais pas forcément des attentes très précises, c'est qu'il ne soit plus attendu pour réaliser un top 5. Oui, ça me semble logique, et ça, j'en ai fait entre guillemets mon deuil depuis longtemps, voire même un top 10. Là où, en revanche, je suis quand même assez étonné, c'est le manque de, alors c'est facile hein, de l'extérieur, mais le manque de combativité, le manque d'audace à chercher à prendre des coups, à chercher à faire exploser la course, quitte à prendre un gros retour de bambou derrière. Là, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui font ce qu'ils peuvent dans les roues, et même en fait, en étant dans les roues, ils sont plus capables de jouer un classement. Et c'est ça que je trouve vachement... vachement dur, et là où par contre je leur trouve quand même une circonstance atténuante pour le front de coureurs qui est engagé sur les Flandres, sur les courses du Nord, c'est qu'on a quand même un contexte d'une équipe qui est en pleine mutation, avec une focalisation mais désormais sur les courses par étapes, et je pense que ça joue quand même, déjà j'avais déjà entendu des anecdotes, ça vaut ce que ça vaut, mais sur le fait que tous n'étaient pas forcément logés à la même enseigne, notamment pour se préparer au niveau des stages, en termes de compensation financière, en termes aussi de staff à disposition. Et je pense qu'il y a un cercle vicieux où, auparavant, tu fais partie en tant que coureur, un Asgreen, un Lampard, tu fais partie des figures de proue de l'équipe, tu tires vers le haut, donc tu te sens considéré. Et désormais, t'es un peu l'équipe bis, en tout cas la partie de l'équipe sur lequel on apporte moins de moyens, moins de considération. Et je pense que voilà, quand on mélange tout ça, et bien ça donne le résultat qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pas les abonnements de Pat Lefebvre qui changeront quelque chose, malheureusement.
Donc si je comprends bien, les avertissements sont validés pour la Soudal Quick Step.
Oui, comment faire long quand on pouvait faire court?
Ok, très bien. Bah, en tout cas, on continue. Est-ce que tu as des avertissements à donner pour ce Tour des Flandres?
Ouais, bah, je vais pas prendre une équipe cette fois-ci. Je vais tirer sur un coureur. C'est plus courageux de ma part. Valentin Madouas, qui pour moi est dans une logique de montée en puissance depuis au moins 2 ans. Je parle sur les classiques, enfin si on inclut aussi les stradés. Avec des résultats tout particulièrement intéressants. Enfin, je ne sais plus, il a dû faire 3e il y a 2 ans au Flandre, il faisait 5 l'an dernier ou quelque chose comme ça. Enfin, je m'adresse peut-être à Nico qui est à cheval, lui, sur les statistiques.
Ouais, c'est ça, l'an dernier, je ne l'ai pas en tête, mais par contre, il y a 2 ans, oui.
Alors, l'an dernier, il finit pas.
J'avais en tête qu'il avait fait un bon résultat.
Il fait troisième en 22. Il fait troisième en 2022.
Ça, on s'en rappelle.
Ouais, non, c'était à Liège qui fait 5 au temps pour moi. Mais tout ça pour dire qu'on a un coureur qui, je pense, a un gros potentiel et qui, depuis 2022, progresse. Mais c'est vrai que là, sur cette saison, début de saison, pour moi, il passe à côté de son sujet. Alors, on lui reproche d'être mal placé, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Et ça ne l'avait pas empêché de faire déjà des super places, voire podium. Donc, je pense que ouais, là, physiquement, peut-être qu'il marque un peu le pas, peut-être qu'il y a certaines raisons hein, qu'il explique, mais de ce fait-là, déçu. Donc, on va dire avertissement travail, sauf s'il a un justificatif à nous présenter sur pourquoi il n'est pas aussi fort physiquement qu'attendu.
Nico, tu partages?
Avertissement, je sais, peut-être un peu fort. J'en attendais, j'attendais pas forcément.
Je peux te couper, Nico? Est-ce que vous avez quand même vu l'article dans l'équipe de Valentin Madouas?
Non,
Vous n'avez pas vu qui explique assez rapidement qu'il jouait la gagne sur le Tour des Flandres. Donc c'est vrai qu'il il s'était annoncé très fortement. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui peut être lui reproché. Bon, après, on n'est pas obligé de reprocher d'avoir de l'ambition au coureur, mais il se voyait sur le podium gagnant, enfin même gagnant, si je me rappelle bien des termes employés dans l'article de l'équipe. Donc c'est vrai que ça peut choquer la différence. Il a dit rapidement je vous fais l'article. Il dit qu'il se sent extrêmement bien en ce moment. Il a des résultats à l'entraînement qui sont meilleurs que les années passées. Et que si ses jambes, il a les mêmes jambes à l'entraînement que sur le Tour des Flandres, pour lui, il joue la gagne, quoi.
Ça, c'est quand même fou parce que quand tu E3, il fait 43e, à travers la Flandre, il fait 13e. Et s'il arrive en jouant gagnant quand même sur le Tour des Flandres avec ces résultats-là, c'est pas impossible, mais c'est quand même.
Après, il y a des mecs qui arrivent sans faire de course et qui arrivent pour jouer la gagne et qui gagnent. Donc,
C'est pas le même calibre.
Il avait peut-être pas vu la start list. Je sais pas. Bon, Nico, en tout cas, tu abondes, tu es contre.
Non, il est contre, Nico.
Je trouve un petit peu sévère pour Madouas, les avertissements. Un petit peu sévère. Je les mettrai pas.
Eh ben, c'est moi qui vais devoir trancher, messieurs. Merci de me donner cette opportunité. Et puis, je pense que cet article de l'équipe que j'ai lu dans son intégralité m'a. Ça m'a un peu remué, donc je pense que je vais mettre un avertissement, peut-être plus un avertissement comportement, mais c'est pas grave, hein, Valentin, il va partir au boulot et puis il va réussir sur les prochaines courses. J'ai pas d'inquiétude, et puis je me rappelle le championnat de France, j'avais été allé le voir, c'était magnifique l'an dernier, donc un petit avertissement pour se remuer. Écoutez, messieurs, je pense que le conseil de classe est clos. J'envoie les différentes appréciations aux élèves et je vous propose tout de suite de passer à la preview de Paris-Roubaix. Je pense que le Tour du Pays Basque, on en parlera la semaine prochaine. Il s'est passé pas grand-chose, beaucoup de chutes et quand même la victoire de Paul Lapeyra. Mais je pense qu'on n'a pas tant de choses que ça à dire pour le moment. Donc, on fera un conseil de classe spécifique Pays Basque Paris-Roubaix la semaine prochaine. Et je vous propose tout de suite de partir sur le Paris-Roubaix. Top jingle.
Votre pronostic.
Une boucherie.
Alors, vous le savez, dimanche aura lieu la 121e édition de Paris-Roubaix. Messieurs, l'enfer du Nord, la reine des classiques. Paris-Roubaix, c'est 260 km avec plus de 55 km de pavé cette année. 3 secteurs 5 étoiles, la Trouée d'Arambert, Mont-Saint, Pével, le carrefour de l'arbre où on a toujours été placé avec Pierrot depuis 2014, sauf depuis le moment où il est parti de Lille. En tout cas, le plus grand nombre de victoires est détenu par deux Belges, Roger De Vlaeminck et Monsieur Tom Boonen, qui ont remporté chacun 4 éditions. Dimanche, l'équipe alpecine aura la possibilité de conserver son invincibilité sur les monuments depuis le début de la saison, avec la victoire sur Milan-San Remo et le Ronde dimanche dernier. Van der Poel a ainsi la possibilité de remporter son deuxième Paris-Roubaix. Qui plus est, Van der Aert est absent, chute très malheureuse à travers la Flandre, et également, on peut citer l'absence de Filippo Ganna, 6e l'an dernier. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, messieurs. Qu'est-ce que vous attendez de cette course ?
La bagarre !
Nico ?
Moi, j'attends qu'il y ait une lutte, mais j'ai du mal à voir qui va pouvoir rivaliser avec Van der Poel, et j'ai bien peur que Van der Poel soit un cran au-dessus de tout le monde et qu'il n'y ait pas trop de débat. Tu prends le classement de l'an dernier, donc Van der Poel fait 1, Philipsen fait 2 et Gianni Vermeersch, qui est très en forme, on l'a vu sur le Ronde, fait quand même 11 l'an dernier.
Écoute, c'est une transition parfaite que tu me fais. Puisque tu sais quoi, tu me donnes envie de poser une petite question provoque là avec ton début. Mathieu Van der Poel va-t-il remporter Paris-Roubaix dimanche, Nicolas, oui ou non ?
Oui.
Héro ?
Non.
Ok, très bien, messieurs. Nous avons deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. C'est intéressant. Nico, continue et après, on donne la parole à Pierrot.
Je dis oui parce que je trouve que Van der Poel, en ce moment, n'a jamais été aussi fort. Je pense qu'il est même encore un cran au-dessus que 2023. Il est dans une équipe qui est extrêmement forte et qui court très très bien tactiquement. On en a parlé, on l'a vu sur le rond. Ils ont l'opportunité, tu l'as dit, de faire un triplé qui n'a plus été réalisé depuis 2006, c'est-à-dire gagner Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ça n'a plus été réalisé depuis 2006. C'était Quick-Step qui l'avait réalisé à l'époque avec Pozzato et Bonnen. Et avec cette force collective et ce coureur qui est Van Der Poel, une concurrence, tu l'as dit, qui est absente ou diminuée, parce que je pense que donc il y a pas Van Aert, Pedersen, je pense qu'il est toujours un peu peut-être un peu diminué. Je pense qu'il a peut-être pris aussi un coup sur la tête avec le ce qui s'est passé sur le ronde. Donc
j'ai c'est vrai qu'on lui a même pas mis d'avertissement à Pedersen. Ouais, je viens d'y penser.
À part facteur externe, parce que tu en auras toujours, chute, malchance, et je lui souhaite pas à Van Der Poel, mais à part ça, j'ai du mal à voir comment il peut être battu, tant pour moi l'écart en ce moment est important.
Pierrot.
Et Pierrot, il va nous le dire.
Au rebond.
Pas de problème. Alors autant pour le Tour des Flandres, j'avais moi-même posé la question comment on peut perdre Van Der Poel et j'étais pas forcément convaincu des éléments de réponse que j'avais pu trouver. Autant sur Paris-Roubaix, je pense que la course est beaucoup plus ouverte. Alors certes, Nico, merci pour ce partage de chiffres journalistiques. Après, il y a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que Paris-Roubaix, déjà, c'est beaucoup plus accessible en termes de dénivelé. Donc ça veut dire que ça roule encore plus vite. Ça veut dire qu'il y a un phénomène d'aspiration qui est encore plus fort. Et aussi une part délatoire, à mon sens, qui est beaucoup plus importante. Alors, bien entendu, je ne leur souhaite pas, mais c'est une des identités de Paris-Roubaix, c'est qu'il y a des chutes et des crevaisons. Donc, aussi fort soit Mathieu Van Der Poel, et là-dessus, je n'irai pas te contredire. Il n'est pas à l'abri d'un aléa, ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, qui est peut-être encore plus important que les spécificités du parcours, je pense tout simplement que c'est la concurrence. Vous avez évoqué mon chouchou Pedersen, donc bien entendu, je ne vais pas être objectif pour répondre à ces accusations. Je pense que Pedersen, la semaine dernière, suite à son énorme gamelle, pensait être affaibli physiquement, donc il a fait le choix de prendre des risques. Il a perdu, au final, il n'était peut-être pas si affaibli qu'il ne pensait, et je pense qu'il pouvait avoir quelques regrets. Mais normalement, ça veut dire que pour Paris-Roubaix, il sort en pleine forme, et on a vu qu'en pleine forme, il est capable de rivaliser avec Van Der Poel. Ça, c'est le premier point concernant la concurrence. Et le deuxième, pas des moindres, c'est que d'une part, Pedersen, il a une équipe à côté de lui qui est très solide, si on compare ne serait-ce qu'avec le Tour des Flandres. Je pense notamment à un mec comme Milan. Milan, s'il arrive sur le vélodrome avec Van Der Poel, même avec Philipsen, je pense qu'il peut les aligner. Et d'autre part, retour de Christophe Laporte, et je pense que Visma, qui est passé complètement à travers de sa campagne, c'est la dernière occasion de se rattraper, donc je vois bien une Visma assez offensive. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles, bien entendu, Van Der Poel reste le favori, mais au même titre que d'autres coureurs.
Alors pour toi, je continue avec toi, Pierrot, qui a la Visma, tu vois Laporte, je ne sais même pas si c'est confirmé réellement sa présence, Laporte, et j'aimerais juste préciser qu'il a quand même été malade, je crois que c'est virus intestinal ou grippe intestinale depuis une semaine, donc on ne sait pas dans quel état il est, mais bon, toujours est-il que...
Je ne connais pas personnellement Christophe Laporte, mais je pense que s'il s'aligne sur Paris-Roubaix,
il peut faire
c'est
mal.
C'est pas pour aller manger un Welsh après la course, quoi. Donc je pense qu'il physiquement il sera très fort. Il l'a déjà prouvé en descendant de stage, alors pas forcément de maladie, mais que quand il s'est mis sur une course, généralement il était performant. Donc à moins qu'il ait convenu au sein de l'équipe qu'il ait plus un rôle de protection pour un Jorgensen ou pour un Van Baarle, mais bon, Van Baarle petit peu hors de forme. Je pense qu'il oui, il est là pour porter haut les couleurs de Visma, et moi je le mettrais comme un candidat crédible, comme on l'aurait porté candidat crédible il y a deux semaines avant qu'il tombe malade. Donc j'ose croire qu'il sera quand même à un niveau de forme, peut-être pas à 100%, mais proche de 100%. Donc ça en fait un concurrent sérieux. Pedersen ou Milan, je pense qu'il y a deux énormes clients, deux belles brutes. Et il va falloir quand même les sortir de la roue. Et puis peut-être un troisième larron, un troisième collectif, la FDJ, pareil, après avoir mis un avertissement à Madouas, je pense qu'un qu'un Kung a tout à prouver. Physiquement, il a montré qu'il était fort. Après, il s'est un peu tactiquement, je pense qu'il s'est un peu loupé sur certaines courses. Mais là, encore une fois, c'est une dernière chance. Donc, j'espère qu'il saura la saisir.
Alors, je continue avant de donner la parole à Nico. Et comment tu penses que ces formations vont s'y prendre pour isoler Van Der Poel? C'est même plus qu'isoler, parce qu'il aura avec lui Philipsen, qui a fini quand même l'an dernier second. S'il a Gianni Vermeersch, qui est dans le même état de forme que sur le Tour des Flandres, ça fait quasiment un troisième. Vermeersch est fini 11 l'an dernier de Paris-Roubaix. Okay. Ça fait trois coureurs top niveau. Comment tu vois les Pedersen, la Lidl Trek ou d'autres équipes essayer de se dépatouiller avec la Alpecin?
J'ai dit la bagarre en rigolant, mais je pense que vraiment il faut avoir une stratégie très agressive. Enfin, je ne serais pas étonné d'ailleurs que la Lidl Trek et la FDJ aient une stratégie très agressive, dans le sens où ils ont plusieurs cartes à jouer et isoler au moins un des deux Alpecin, soit Philipsen, soit Van Der Poel. Et ensuite, que ce soit Laporte, Pedersen ou Milan, c'est des mecs qui peuvent aller très vite au sprint si jamais ils arrivent en petit comité. Donc non, je pense que c'est une course assez ouverte qui peut être vite tactique selon qui est devant et qui est en chasse derrière. Et donc de cette plus difficile à contrôler pour l'Alpecin. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'Alpecin va forcément perdre, mais pour moi, il y a match.
Nico, tu crois ce scénario?
Après, moi, ce que je me dis, c'est qu'on parle quand même de Van Der Poel, mais en soi, ils ont quand même deux cartes. Ils ont Van Der Poel et Philipsen. C'est-à-dire que si, je sais pas, à 100 bornes de l'arrivée, après le carrefour de l'Arbre, il y a, admettons, un Philipsen qui part devant, et qu'aux côtés de Van Der Poel, il reste Vermeersch, Groves, ou je sais pas, ou Craig Andersen s'il le fait, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses pas un Philipsen partir, donc tu y vas. Mais tu as un Philipsen devant et tu as un Van Der Poel qui aura encore quelques coéquipiers dans le peloton. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même deux cartes maîtresses avec lesquelles ils peuvent un petit peu entretenir aussi le flou. Ou inversement, tu peux avoir un Van Der Poel qui décide de partir plus tôt, à 80-90 bornes de l'arrivée, puis un Philipsen qui reste dans le peloton au cas où derrière, ça ne le fait pas pour Van Der Poel.
Donc, je n'ai pas compris quand tu dis qu'à Philipsen, ouais, ou Van Der Poel devant, il est tout seul ou c'est une course de vélo et c'est quand même pas si facile de partir tout seul?
Non, avec d'autres personnes. Ce que je veux dire, c'est que s'il y en a un des deux qui décide de partir avec d'autres à 90 ou 100 km de l'arrivée, je sais pas, tu as un petit, ouais, groupe de 5-6 devant, tu as un Philipsen avec 5-6 coureurs devant, il faut voir qui est avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un Philipsen dans ce groupe-là, tu peux te dire que Philipsen, il a une bonne chance de gagner s'il est dans un groupe de 5-6 dans le final.
Ouais, comme s'il part avec un Milan ou à Laporte, ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est des scénarios possibles.
Ouais, tout à fait.
C'est pas Van Der Poel qui gagne, ouais, tout à fait.
Non, mais par contre, tu as un Van Der Poel qui potentiellement reste dans le... un Van Der Poel qui reste dans le peloton et qui constitue, si tu as un peloton qui perd, qui n'est pas trop loin, qui reste à portée de tir, je ne sais pas, entre 30 secondes et une minute, qui reste toujours une carte envisageable. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois bien, mais je me mets à la place d'autres équipes. Je pense que le coureur à éliminer, c'est Mathieu Van Der Poel. Donc, si devant, ouais, t'as un de tes leaders qui est avec Philipsen, oui, bien sûr, il y a le risque de se faire battre par Philipsen, mais je pense qu'il fait quand même moins peur. Et je pensais à l'Idol, à l'FDJ, voilà, ils ont quand même des arguments. L'FDJ, alors je ne sais pas si Pity le fait, mais je pense que oui. Ces deux équipes ont un coureur qui va vite au sprint, donc, et encore une fois, encore faut-il que ça arrive au sprint en petit comité. Donc pour moi, non, voilà, on a au moins deux équipes avec des cartes et je mettrai aussi Laporte en plus.
Bah Nico, ouais, tu m'as fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que donc tu parles de Mathieu Van Der Poel, tu le vois gagnant, mais finalement, est-ce que sa plus grosse menace, c'est pas dans son équipe Philipsen? C'est pas forcément une menace, bien évidemment, ils sont en équipe. Ce que je veux dire par là, c'est, à ton avis, quelle sera la stratégie d'Alpecin? Est-ce que on court pour Mathieu Van Der Poel et Philipsen va lui rendre le cadeau que Van Der Poel lui a fait à San Remo? Ou est-ce que Van Der Poel peut très bien faire le même coup qu'à San Remo et protéger Philipsen s'ils sont dans un groupe de 3-4 à l'arrivée pour jouer le sprint avec Philipsen? Nico, tu le vois comment?
Non, moi je pense qu'ils vont jouer la carte Van Der Poel à fond. Je pense qu'ils vont jouer la carte Van Der Poel à fond. Pour ce que tu as dit, pour Milan-San Remo, pour que Van der Poel aussi puisse réaliser un doublé qui n'est pas si souvent réalisé, et aussi parce qu'il est c'est le plus fort. Donc je pense qu'ils vont jouer pour ces trois raisons-là, ils vont jouer à fond la carte de Van der Poel.
Ok, Pierrot, ça te semble évident également ?
Non, moi, je suis manager et qui plus est dans l'équipe Alpecine. On sait que Van der Poel a de l'affluence. Je pense qu'on a deux cartes maîtresses et il faut les utiliser à fond. Et selon les circonstances, les coureurs se parlent entre eux, ça se parle à l'oreillette. Enfin, tout dépend du moyen de communication. Il n'y a pas un coureur plutôt qu'un autre, même si bien évidemment, si tu dois dégager un favori parmi les deux, ou en tout cas un candidat légitime parmi les deux, c'est Van der Poel. Mais ça serait, voire même peut-être anti-sportif de dire qu'il faut absolument que ce soit Van der Poel qui gagne, alors que tu as une autre carte qui est prête à gagner, d'autant plus que j'ai l'impression que Van der Poel n'est pas forcément le plus envieux de, à tout prix, de collectionner les victoires, même si c'est une course, c'est pour la gagner. J'ai l'impression parfois que les suiveurs sont peut-être plus enthousiastes que lui, qui cherchent à gagner X fois Milan-Sanremo, X fois le Tour des Flandres, X fois le Paris-Roubaix.
Ah, je ne suis pas forcément d'accord là. Là, je pense qu'il a envie potentiellement quand même de faire un doublé qui est avec le meilleur champion du monde. Enfin, là, il faudra montrer dans les stats, mais je ne sais pas qui a fait un
Rick doublé. Van Looyen, 1962,
ah, oui. Voilà, bam. Bah voilà. Non, je pense que c'est quand même important à ses yeux. Et
ouais, c'est assez drôle. C'est ton point de vue, j'entends. Sauf si tu as des confidences de sa part, j'entends.
Non, mais pour revenir aux confidences par rapport à ce que tu disais, je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'Axel Laurens après le Tour des Flandres, où il explique un petit peu comment ça se passe au niveau des oreillettes, de Van der Poel et de la tactique. Et c'est assez intéressant. En fait, il explique que c'est plutôt Van der Poel qui a le lead sur la course et c'est lui qui dit quoi faire. Hein.
Ah, mais Alpecin, c'est l'équipe de Van der Poel là-dessus, je suis tout à fait.
C'est l'équipe de Van der Poel. Donc,
c'est Van der Poel qui décidera la sortie du carrefour de l'arme s'il y a Philipsen avec ou pas.
C'est exactement ça.
Je pense donc, que c'est ça veut dire que c'est pas tout pour Van der Poel, c'est selon la situation de course, Van der Poel jugera de ce qu'il est bon de faire. C'est dans ce sens-là ma remarque.
Ok.
Ok, très bien. Eh ben, écoutez, avant de passer au prono, une petite question, parce qu'il y a Joshua Tarling qui va faire Paris-Roubaix. Vous pensez que ça peut être sympa, Joshua Tarling, sur Paris-Roubaix, Pierrot ?
Je suis un peu embêté pour répondre, parce que d'un côté, j'ai envie de dire non, parce que je le trouve trop discret par rapport à ce qu'il peut montrer en chrono. De l'autre, sur les deux dernières semaines, on l'a vu pas mal à l'avant. Donc, réponse, j'en sais rien.
Nico ?
Ouais, moi je suis curieux de le voir. Les bonnes places qu'il a fait sur le Tour des Flandres à travers la Flandre, là, il fait deux super places. Donc je suis curieux de voir du haut de son 1m94 ce qu'il va pouvoir nous proposer sur Paris-Roubaix. Et je pense qu'il a un profil intéressant pour cette course.
Eh bien, c'était un peu une question piège que je vous ai posée parce que j'étais au carrefour de l'Arble. J'étais au carrefour de l'Arble l'an dernier. Okay. Et j'ai vu passer une grande carcasse tout le monde commençait à remballer. C'était Joshua Tarling. Et Joshua Tarling, il a fait son premier Paris-Roubaix à 19 ans l'an dernier et il a fini over the limit. Plus tard. Et effectivement, c'est une petite info. Alors, il avait 19 ans. OTL. Il avait fini donc OTL, comme on dit. Bon, il avait 19 ans. C'était sûrement l'une de ses premières courses de plus de. J'en sais rien. En tout cas, il est passé, je me rappelle très bien, cette grande carcasse. Je me disais, mais qui c'est ce gars? Je ne le connaissais pas à l'époque. Et donc voilà, c'était juste pour la petite info à vous donner. Bon, je pense qu'il fera bien mieux avec les kilomètres, les petites bornes qu'il a pu faire depuis plus d'un an et puis ces belles places récentes. Mais voilà, c'était pour vous donner la petite info. Intéressant. On va conclure l'émission, bien sûr, avec votre prono. Je rappelle les scores des pronostics. Nous sommes chacun un point, puisque nous avons tous parié Van der Poel sur le Tour des Flandres. On a marqué des points. On sort de la relégation. Surtout. Messieurs, votre prono, je crois qu'il y en a un qui est clair. On va commencer par Nico, le prono pour dimanche. Et tu vas nous donner donc ton prono et aussi ta grosse cote, celle sur laquelle il faut mettre une petite pièce si on aime faire des paris.
Mon prono, c'est Mathieu Van der Poel qui finit solo sur le Vélodrome avec 53 secondes d'avance sur le deuxième.
Oh, c'est beau. Et la grosse cote ?
Niels Polite.
Ah, il veut le classer. Et on l'a, il avait les encouragements.
Il vient avec les encouragements, bien sûr.
Pierre Marchand, qui va gagner dimanche? Ton prono.
Allez, on va revenir aux bases. Pedersen.
Ah, mais il a raison. Hein, c'est, il ça marche. Tout le temps. Et ta grosse cote, le cousin de Pedersen ou t'as quelqu'un d'autre?
En grosse cote, j'y ai fait allusion tout à l'heure, mais c'est dans un autre registre, Stefan Kung.
Ok, bon, c'est quand même pas une énorme cote.
C'est une grosse cote, ouais.
Mais bon, t'es obligé de l'accepter ça. Bon, ça vaut pas pour les paris. Hein, je sais pas comment la prendre, moi, cette grosse cote. Est-ce que ça vaut pour les paris si tu me sors un Stefan Kung? Allez, on va le valider.
C'est plus pour le plaisir.
Ouais. Allez. Bon, écoutez. Mes pronos, bien sûr, mes pronos, il n'y a aucun problème. Faut arrêter de se voler la farce. Ça sera Mathieu Van Der Poel. Et mon gros prono, pas si gros que ça, mais moi j'aime beaucoup Milan. Alors, il m'a plu, Jonathan Milan. J'ai envie de mettre une petite pièce.
Intéressant.
Affaire à suivre.
Bon, messieurs, c'est le moment de conclure. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, écoutez, c'est sympa. Laissez des commentaires. Hein. Dites-nous que nos pronos sont nuls, qu'on est mauvais, il n'y a pas de problème. On va progresser. Et puis, n'hésitez pas à partager, commenter. L'émission, ça roule. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le Paris-Roubaix et le Tour du Pays Basque. Pierre, Nico, à la semaine prochaine.
Salut, les gars.
À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao, ça roule.